Voilà, donc nous allons prendre la suite dans le livre de Genèse. C'est au chapitre 21, les versets 9 à 24. Mais en fait, pour plus de clarté, je vais relire à partir du verset 1, la naissance d'Isaac, parce que ce qu'on va lire ensuite est vraiment la conséquence de cette naissance. Donc je lis à partir du verset 1, chapitre 21. L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac le fils qui lui était né, que Sarah lui avait donné. Il circoncit son fils Isaac lorsqu'il fut âgé de 8 jours. Comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Sarah dit, « Dieu m'a donné un sujet de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait osé dire à Abraham, Sarah allaitera des enfants ? Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Donc verset 9 maintenant. Sarah vit rire le fils que l'égyptienne Agar avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham, « Chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole déplut beaucoup à Abraham parce que c'était son fils. Cependant, Dieu dit à Abraham, « Que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ton esclave. Quoi que te dise Sarah, écoute-la. » car c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, car il est ta descendance. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il y remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis, à la distance d'une portée d'arc, car elle se disait « Je ne veux pas voir mourir mon enfant. » Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à pleurer tout haut. Dieu entendit les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle alla remplir l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant. Celui-ci grandit, habita dans le désert et devint tireur à l'arc. Il s'installa dans le désert de Paran et sa mère prit pour lui une femme égyptienne. À cette époque-là, Abimélec, accompagné de Picol, le chef de son armée, dit à Abraham, « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. » Jure-moi maintenant, ici, au nom de Dieu, que tu ne me tromperas pas, ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu feras preuve envers moi et envers le pays où tu séjournes de la même bonté que moi envers toi. Abraham dit, je le jurerai. Et jusqu'ici, la parole de Dieu. Je vais prier avant de commencer. Père, nous te remercions pour cette parole. Te prions que nous puissions la comprendre, que tu puisses venir à notre aide par ton Saint-Esprit pour que cette parole pénètre au plus profond de notre cœur et que nous puissions l'appliquer, Seigneur, dans notre vie. Nous prions. Amen. Alors, il y a un principe quand vous faites une promesse, c'est que vous devez la réaliser. Si vous faites une promesse, ça veut dire que vous allez devoir la réaliser, c'est le principe d'une promesse. Et par exemple, si je fais la promesse à Cathy, ma femme, d'aller chercher du pain, eh bien, ça veut dire que je dois aller le chercher, ce pain. Et si Cathy va chercher le pain à ma place, eh bien, je vais me poser des questions, parce que là, je ne vais pas pouvoir réaliser ma promesse. Pourquoi est-ce que Cathy est allée chercher du pain à ma place ? Et le plus probable, eh bien, c'est parce qu'elle ne me fait pas confiance. Peut-être qu'elle me connaît trop bien, elle ne me fait pas confiance. Et donc, elle est allée chercher le pain à ma place, malgré ma promesse. Alors, vous pourrez me demander à Cathy après hein, pourquoi elle est allée chercher du pain à ma place. En fait, elle ne va pas comprendre parce que c'est un exemple fictif. Mais qu'en est-il de Dieu ? Si Dieu nous fait une promesse, c'est sûr que si un homme vous fait une promesse, vous pouvez avoir des raisons de ne pas lui faire confiance. Mais qu'en est-il si Dieu nous fait la promesse ? Un autre exemple, imaginez que votre père vous promette d'hériter de son plus grand trésor, de son trésor le plus cher. Alors ça pourrait être beaucoup de choses. Moi j'aimerais bien imaginer une maison en Bretagne, hein, en granit, au bord de la côte sauvage, avec vue sur la mer, sur les rochers, sur les vagues, avec qu'il est orienté à l'ouest pour voir les couchers du soleil et les tempêtes sur l'Atlantique. Mais vous pouvez imaginer autre chose comme héritage. Donc imaginez que votre père vous promette ce bien en héritage, mais découvre au bout d'un moment, à sa grande stupeur, que vous avez commencé à chercher une maison équivalente par vos propres moyens. Vous êtes allé voir votre banquier, vous êtes allé voir des agents immobiliers, et vous prospectez le quartier de la maison de votre père pour chercher une maison équivalente. Imaginez la réaction de votre père. Il y aurait de quoi se poser des questions. Est-ce que ça veut dire que mon enfant ne me fait pas confiance ? Est-ce que ça veut dire qu'il doute de ma parole ? Est-ce que ça veut dire qu'il ne veut plus rien n'avoir à faire avec moi ? Pourtant, il est toujours le bienvenu chez moi. Chez moi, c'est chez lui. Est-ce que notre lien n'est pas brisé ? À quoi ça sert de garder cet héritage pour lui, vu qu'il cherche à l'acquérir ailleurs ? Alors, mes exemples sont bien fades, mes images sont bien fades par rapport à la promesse que nous fait Dieu lui-même. Car avec Dieu, l'héritage n'est pas un bien matériel, l'héritage qu'il promet n'est pas un bien matériel, ce n'est pas une maison. Ce n'est pas la santé qu'il promet, ni d'avoir des jours heureux sur cette terre. Non, l'héritage qu'il promet, c'est de le connaître vraiment pour l'éternité. L'héritage qu'il promet, c'est une relation restaurée avec lui-même, avec notre Père. L'héritage qu'il promet, c'est la vie en communion parfaite et en paix parfaite avec notre Créateur. L'héritage qu'il promet, c'est de le connaître, toute la hauteur, la profondeur de son amour. Et pourtant, tout comme dans l'exemple que j'ai donné, bien souvent, nous cherchons à gagner cet héritage promis par nos propres moyens, parce que nous ne faisons pas pleinement confiance que Dieu nous accorde cette promesse simplement par la foi, simplement en y croyant. Alors vous allez me demander, mais quel est le lien avec le texte d'aujourd'hui ? Eh bien, pour rappel de ce qui s'est passé depuis le début de la livre de Genèse, nous avons vu la chute de l'homme, la désobéissance de l'homme qui a douté de la parole de Dieu et de la bonté de la parole de Dieu. Le serpent qui dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit ?» L'homme a douté de la parole de Dieu et a préféré son indépendance, ce qui l'a mené dans une spirale du péché et de la mort avec toutes ses conséquences dramatiques et amères. Et toute l'intrigue de la Genèse et ensuite de la Bible, c'est de savoir comment Dieu va restaurer l'homme alors que celui-ci est atteint jusqu'au plus profond de son cœur par le péché et la corruption. Et la promesse de restauration, Dieu promet la restauration à travers Abraham, c'est ce qu'on a vu. Dieu promet que beaucoup de nations seront bénies à travers la descendance d'Abraham. Mais il y a un problème avec Abraham, c'est qu'il n'a pas d'enfant. Comment Dieu peut lui faire une telle promesse alors qu'il n'a pas d'enfant ? D'autant plus que cette question de descendance était comme un couteau dans la plaie pour Abraham et sa femme Sarah. Nous avons du mal à imaginer dans notre société individualiste qu'à l'époque d'Abraham, tous les désirs étaient centrés non pas sur des objectifs individuels, mais sur des objectifs familiales. C'est le succès et la prospérité de la famille qui était le rêve. La gloire devait s'atteindre non pas individuellement, mais à travers la famille et la descendance. Et donc l'espoir et les rêves passaient par le fait d'avoir beaucoup d'enfants. Et le fait de ne pas avoir d'enfants était par contre donc une source de honte, de souffrance et de découragement. Abraham et Sarah se retrouvaient donc devant cette promesse de bénédiction irréalisable, car ils n'ont pas d'enfants. Et dans ce cas-là, il y a bien sûr la tentation de prendre soi-même les choses en main, de se garantir eux-mêmes une succession sans tenir compte de la promesse de Dieu. Alors ils font cela, ils ont fait cela à travers une pratique courante à l'époque qui s'apparente à la GPA, à la gestation pour autrui. Sarah donne sa servante à Abraham pour assurer une succession. Et Abraham, dans ce moment de faiblesse, ne fait pas confiance dans le fait que Dieu lui-même va lui pourvoir, à travers sa promesse, une succession et une riche descendance. Il ne fait pas confiance à la promesse de Dieu. Il va devoir en subir l'amère conséquence de ses choix, à travers une famille brisée et dysfonctionnelle. Verset 9, nous lisons « Sarah vit rire le fils que l'égyptienne Agar avait donné à Abraham. » Alors, il y a donc maintenant deux fils. Il y a Ismaël, qui est donc, comme on a vu, issu du manque de confiance d'Abraham dans le fait que Dieu peut accomplir sa promesse d'une descendance par un miracle. Et il y a Isaac, lui, le fils du miracle, le fils de la promesse de Dieu. Et on voit que le premier, Ismaël, persécute le deuxième Isaac. On voit Sarah vit rire, mais en fait, quand on voit le terme, ça peut aussi signifier la persécution, qu'il se moque d'Isaac. Et on peut bien imaginer les sentiments qui traversent la tête d'Ismaël. Hein. Lui, le fils de la servante, doit maintenant se sentir bien méprisé. Il est jaloux. Il est jaloux de ce fils légitime. Il voit bien que ce fils est en train de prendre toute la place. Et donc, il ne peut s'empêcher de moquer et de persécuter son demi-frère. Et on voit alors Sarah réagir et dire à Abraham « Chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Alors la réaction de Sarah est plutôt radicale. Alors si cet épisode avait lieu aujourd'hui, on pourrait imaginer les réactions indignées sur les réseaux sociaux, hein, sur Facebook et Twitter, les tweets indignés face à cette réaction de Sarah. Comment cette femme n'a aucune pitié pour sa servante et son fils et veut la chasser, alors que finalement c'est elle-même qui a proposé en plus sa servante à Abraham et veut la jeter hors de la maison à la merci de tous les dangers. Cette femme n'a donc aucune pitié. Abraham, lui, on le voit au verset 11, n'est pas prêt à abandonner son fils. Et pourtant, nous avons cette réaction étonnante de Dieu. Dieu intervient et on voit qu'il approuve Sarah, au verset 12, « Quoi que te dise Sarah, écoute-la. » Alors, choquant, non ? Pourquoi Ismaël devrait-il être chassé ? Alors, nous sommes dans une époque de l'émotion, où l'émotion de l'instant prend souvent le dessus sur toute autre considération qui nous ferait prendre un peu de recul et de réflexion sur la situation. Pourtant, nous avons besoin ici, plus que jamais, de recul et de réflexion. Car Dieu veut nous apprendre ici une leçon qui va bien plus loin qu'une simple querelle familiale. Il veut nous montrer pourquoi la promesse qu'il nous fait à nous ne peut être accompli que par Dieu lui-même, du début à la fin. Il veut nous montrer que la réconciliation avec Dieu ne peut s'accomplir que par un miracle et qu'on ne peut pas y contribuer. Seul Dieu peut accomplir sa promesse. Nous ne pouvons rien faire pour y contribuer. C'est pourquoi cette promesse, nous pouvons y accéder uniquement par la foi, en venant les mains vides devant Dieu. Il y a en fait là deux fils, le fils du miracle et le fils des tentatives humaines. Le fils des tentatives humaines, c'est Ismaël, né par la tentative d'Abraham de forcer la bénédiction d'une descendance. Et il y a le fils du miracle, Isaac, né par l'intervention divine. Et le fils qui peut hériter, il n'y en a qu'un seul, c'est le fils du miracle. Parce que le fils du miracle est le produit de la promesse de Dieu. Et le cœur de la foi, le cœur de la confiance en Dieu, eh bien, c'est de croire dans ses promesses, c'est de croire que lui seul peut les réaliser et les accomplir, qu'on ne peut pas y contribuer. Dès sa première rencontre avec Abraham, Dieu l'appelle à s'appuyer sur ses promesses. Abraham ne doit pas s'appuyer sur ses propres ressources, Abraham ne doit pas s'appuyer sur ses propres capacités, mais il doit s'appuyer sur Dieu et mettre tous ses espoirs en lui. Abraham doit mettre toute son espérance en Dieu. Et c'est à ce prix-là qu'il obtiendra son héritage. Mais comme on l'a vu, Abraham, et d'ailleurs on l'a vu aussi la semaine dernière, Abraham a douté de nombreuses fois des promesses de Dieu. En fait, c'est comme un apprentissage. Il y a aussi Trevor qui a donné l'exemple d'un bébé hein, qui apprend à marcher, qui chute et qui tente de se remettre debout pour apprendre à marcher. Et bien là aussi, à Abraham apprend, et c'est un processus à faire confiance à Dieu, à mettre pleinement sa foi en lui. Et donc là, on a vu qu'il a cherché par ses propres moyens à assurer sa descendance. Et Ismaël est donc le fils charnel, le fils des tentatives humaines. Et ce fils ne peut donc pas hériter des promesses de Dieu, car les promesses de Dieu ne peuvent être accomplies que par une intervention divine, par Dieu lui-même. Isaac, par contre, est le fils spirituel, le fils du miracle, le fils de la promesse. C'est par lui et par sa propre descendance que Dieu promet de bénir toutes les nations. Isaac aura un descendant qui accomplira cette bénédiction aux nations, un descendant qui naîtra lui-même d'une naissance miraculeuse, un descendant qui réconciliera l'humanité avec Dieu lui-même, à travers sa mort et sa résurrection, eh bien c'est Jésus-Christ, descendant d'Isaac, descendant d'Abraham. On ne peut pas nous sauver nous-mêmes. Nous avons besoin de l'intervention divine pour être sauvés. Nous avons besoin de croire simplement dans la promesse de Dieu, du salut en Jésus-Christ. Alors vous allez peut-être penser que je vais trop loin dans mon interprétation, comment je peux tirer tout ça de ce texte? Eh bien en fait, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, reprend cet incident, et reprend cet incident entre Sarah et Agar. Et cet incident est pour lui un moyen d'illustrer presque toute sa lettre, en fait toute sa lettre aux Galates. Alors on ne va pas lire tout le passage dans la lettre aux Galates. Mais sachez que ça se trouve au chapitre 4, à partir du verset 22. Et je vais juste lire le verset 23. Mais le fils de l'esclave, donc Ismaël, est né par volonté humaine. Et celui de la femme libre, c'est-à-dire Sarah, est le fruit de la promesse. Et on voit aussi sur le bulletin, le verset 28, qui est sur la couverture. Nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Alors, quel était le problème dans l'église de Galate? Il faut quand même en dire deux mots. Eh bien, le problème dans l'Église de Galate, c'était le légalisme. Le légalisme, c'est de penser pouvoir contribuer d'une façon ou d'une autre à l'obtention de la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire pouvoir contribuer à son salut par ce qu'on va faire, nous, par nos œuvres. Contribuer, par exemple, en suivant des rites, en s'abstenant de manger certains aliments. En fait, au fond, il s'agit de trouver sa sécurité ailleurs qu'en Christ. Et pour donner un exemple, moi, par exemple, je pourrais trouver ma sécurité dans une petite voix qui me dirait « Ah, j'ai si bien prêché aujourd'hui, je suis si proche de Dieu !» Et ça pourrait m'enorgueillir. Ou alors, je pourrais au contraire être désespéré en me disant « Ah, j'ai si mal prêché aujourd'hui, je dois être si éloigné de Dieu !» Et ces deux sentiments pourraient me mener soit à l'orgueil ou soit au désespoir. Mais notre sécurité ne se trouve pas dans notre propre performance. Notre sécurité se trouve en Christ, en regardant à Christ. Notre sécurité dépend de qui nous regardons, non pas nous-mêmes, mais Christ. C'est cela la foi pleine et entière. Et c'est aussi cet aspect qui nous différencie de toutes les autres religions. Il n'y a qu'une seule religion de la grâce. Les autres religions sont des religions des œuvres où il faut mériter son salut. Les religions humaines sont des descendants d'Ismaël. Il faut suivre des règles et des rites pour s'accorder la bonne grâce de Dieu par ses propres moyens. Et finalement, il n'y a pas seulement dans les religions, même les agnostiques font ça. Dans beaucoup de cas, quand ils disent « De toute façon, si Dieu existe, je n'ai rien fait de mal », il va m'accepter. Voilà une réflexion qui est du même acabit que la réflexion du plus religieux. Parce que finalement, là aussi, cette personne s'appuie sur ses œuvres, sur ce qu'il va faire ou ne pas faire pour être accepté par Dieu, par ses propres moyens. Dans sa lettre aux Galates, Paul s'en prend aux judaïsants, c'est-à-dire ceux qui continuent à appliquer les rites de la Torah, par exemple en s'abstenant de manger certains aliments, en s'abstenant de manger du porc. Il leur dit justement, eux qui croient être les véritables héritiers d'Abraham, qu'en agissant ainsi, ils sont en fait les fils d'Ismaël, les fils des tentatives humaines pour s'accorder les bonnes grâces de Dieu. Et donc de même qu'Abraham chasse le fils des tentatives humaines, nous devons aussi chasser tout ce qui nous fait penser que nous allons obtenir les bonnes grâces de Dieu par nos tentatives et non pas sur la croix suffisante de Christ. Alors si vous voulez en savoir plus sur le légalisme et sur la lettre aux Galates, je vous invite à lire un excellent article qui se trouve dans Le Maillon, qui se trouve là. Ça s'appelle « Le légalisme en milieu évangélique ». Et donc, ça va bien plus loin donc, pour donner des exemples concrets de ce que ça peut être le légalisme et aussi pour aller plus loin dans le message de la lettre aux Galates. Alors, j'espère que vous voyez maintenant que ces deux fils sont irréconciliables, un peu comme l'eau et l'huile, ça ne peut pas se mélanger. Il y a le fils de la promesse de Dieu qui s'obtient par la foi. Et la foi seule, Dieu, il ne peut donner ses bénédictions que par des miracles. Nous ne pouvons pas y contribuer. Et il y a le fils des tentatives humaines qui ne peut mener qu'à l'impasse et l'esclavage. Car on ne peut pas contribuer à notre salut. On est corrompu au plus profond de nous-mêmes. Et il nous faut la mort et la résurrection du Christ pour nous réconcilier avec Dieu. Alors, qu'en est-il d'Ismaël maintenant? Qu'en est-il d'Ismaël? Eh bien, on voit à partir du verset 13 la compassion de Dieu pour Ismaël, malgré tout. Alors, quelqu'un aimait à dire que Dieu a la capacité d'écrire droit sur des lignes courbes. Et il voulait dire par là que malgré la corruption et le cœur tortueux des êtres humains, comme on voit là avec Abraham, eh bien, Dieu parvient à ses fins à rétablir des situations qui paraissent inextricables. Et ici, dans la situation tordue de la famille d'Abraham, eh bien, on voit Dieu faire preuve de compassion et assurer un avenir au fils illégitime. Le fils de la servante est donc chassé, mais nous voyons qu'il est également bénéficiaire d'une bénédiction de Dieu. Et si Isaac est le fils de la promesse, sur laquelle repose la bénédiction spirituelle, Ismaël, lui, obtient une bénédiction matérielle. Verset 13, « Je ferai aussi une nation du fils de l'esclave. » Et nous voyons ensuite la protection de Dieu dans le désert. Sans l'intervention divine, l'enfant et sa mère auraient été voués à la mort, dans le désert, sec, sans ressources. Mais on voit que Dieu pourvoit. Et au moment du désespoir, verset 18, Dieu réitère sa promesse de faire d'Ismaël une grande nation. Et il les mène vers un puits, au verset 19. Dieu fait donc preuve de compassion envers Ismaël en lui accordant cette promesse d'une grande descendance. Mais encore une fois, la bénédiction spirituelle, elle est pour Isaac. C'est lui l'héritier des promesses spirituelles données à Abraham, de bénir beaucoup de nations à travers sa descendance. Et nous sommes nous-mêmes héritiers d'Isaac, héritiers d'Abraham, héritiers d'Isaac à travers Jésus-Christ. Parce que cette descendance, elle pointe vers Christ, et Christ qui est notre salut, qui est celui qui nous fait bénéficier de l'héritage. Donc, par la foi d'Abraham, nous sommes aussi bénéficiaires des promesses, par la foi que c'est Dieu qui doit agir pour nous sauver et qu'il a pleinement accompli notre salut en Jésus-Christ et que nous sommes pleinement bénéficiaires par la foi, simplement par la foi seule. Ensuite, dans les versets 22 à 24, nous voyons le témoignage d'Abraham. Malgré tout, nous voyons qu'Abraham s'est mis dans des situations inextricables. Et pourtant, quelque part, je suis sûr que le personnage d'Abraham nous rassure, au fond, parce qu'il est humain. On voit qu'il est faible comme nous, qu'il chute comme nous. Et nous voyons à travers Abraham que ce n'est pas tant la quantité de notre foi qui compte, mais l'objet de notre foi. Si vous vous noyez et si quelqu'un vient vous sauver, ce n'est pas tant la force dans votre bras qui va compter que la force du bras qui va vous tirer hors de l'eau. Et ça en est de même pour la foi. Ce n'est pas la quantité de notre foi qui compte, mais l'objet de notre foi, Jésus-Christ. La foi d'Abraham était si loin d'être parfaite. Notre foi est si loin d'être parfaite. On voit que par son incrédulité, il a engendré cette situation familiale dramatique. Mais nous ne pouvons pas satisfaire aux exigences même d'une foi parfaite. Est-ce qu'on doute jamais ? Est-ce qu'on fait preuve d'une confiance parfaite et totale à Dieu en toute situation ? Eh bien non. Nos regards doivent être tournés vers Christ. C'est lui qui nous donne la réconciliation à travers lui, à la croix. On peut y venir seulement les mains vides, humblement, en confessant devant lui notre incapacité à nous en sortir par nous-mêmes, par nos propres forces. Et ce qui est rassurant également avec Abraham, c'est de voir que malgré ses errements, malgré les fruits amers que nous venons de voir à travers Ismaël, et bien malgré tout cela, Abimélec reconnaît que Dieu est avec lui et veut conclure une alliance avec lui. On voit au verset 22, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Et bien nous aussi, comme Abraham, nous pouvons avoir des situations bien tordues à cause de notre doute, de notre incrédulité. Comme Abraham, que nous puissions appuyer notre faible foi sur les promesses de Dieu et donc ultimement sur Jésus-Christ, regarder à Christ, reconnaître notre faiblesse et nos péchés. Et que, comme Abraham, que Dieu puisse nous utiliser pour sa gloire. Et on va prier. Un Père, il faut bien reconnaître que nous ne sommes pas meilleurs qu'Abraham. Notre foi n'est pas plus grande. Et ce qui compte, c'est l'objet de notre foi, c'est Christ. C'est son œuvre, c'est sa puissance. Et nous te prions vraiment que nous puissions ce matin encore regarder à lui et compter sur lui pour nous sauver, compter sur lui pour nous bénir. Nous savons que le salut ne passe que par lui, que par la croix. Que nous puissions nous appuyer sur lui et nous prions, Seigneur, qu'à travers notre faible foi, malgré notre faible foi, comme pour Abraham, tu puisses nous utiliser, que nous puissions être des lumières pour les nations, parce que nous regardons à Christ et parce que Christ seul est notre espoir et notre espérance, que nous puissions être une lumière parmi ceux qui pensent pouvoir être acceptables à tes yeux par ce qu'ils vont faire. Et nous savons que ce n'est pas possible à cause de la profondeur du péché qui est en nous, mais nous prions vraiment que nous puissions les amener eux aussi à regarder à Christ, à chercher le secours en lui, lui seul qui peut nous sauver, de la mort et de l'enfer, et qui peut seul nous mener à la vie, Seigneur, et que nous puissions avoir à cœur de parler du Christ et de parler du salut, de cette seule façon de s'en sortir qui est par la foi en Christ, et non pas par nos œuvres, non pas par nos propres capacités, et que toute la gloire soit à toi, Seigneur, que nous puissions te rendre la gloire qui t'est due. Amen.